Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Eh bien non, c'est beaucoup plus simple. Nous avons acheté une maison à la campagne, il y a quelques 40 ans, au moins. Tu me corriges, Ginette, si tu veux. Et cette maison est tout à fait à côté du château de Rémusat. Et donc, nous sommes devenus assez amis avec les propriétaires, qui n'étaient pas des descendants directs des Rémusat. La comtesse, la dernière comtesse de Rémusat était encore là, lorsque nous sommes installés là-bas. Et elle n'avait pas de descendants. Mal. Elle avait eu une fille qui était morte pendant la guerre. C'était une fille très brillante. C'était donc des amis qu'elle avait légué ça, un ami de son mari. Et c'était les petits-enfants, la petite fille de ce monsieur qui était propriétaire avec son mari qui était assez riche. Et donc nous sommes devenus amis et comme j'avais envie d'écrire, que j'avais déjà écrit je crois deux livres ou trois, je me suis dit, tiens, Rémusat, peu connu, mais un homme intéressant, avec surtout 3000 pages de mémoire. C'est ça qui est intéressant, et que j'ai lu avec soin, et écrivant à la main, voilà. Donc c'est le point de départ. C'est mon envie d'écrire, mon envie d'écriture, et ce sujet qui était à côté de chez moi.
À Toulouse, fondateur de la clinique Pasteur, figure du CHU, puis écrivain dans une seconde vie, le professeur Jacques Arlet s'est éteint en décembre dernier à l'âge de 101 ans. En 2015, dans le cadre de l'émission Mémoire 2 que je produisais alors, je l'avais rencontré. Quelques années auparavant, Jacques Arlet avait écrit la biographie de Charles de Rémusat, un orléaniste libéral éclairé, un député de la Haute-Garonne qui fut aussi un temps, au début de la Troisième République, ministre des Affaires étrangères. Un hommage à cette personnalité toulousaine, Jacques Arlet, je voudrais vous faire réécouter cette semaine quelques extraits de cet entretien. In memoriam Jacques Arlet avec Charles de Rémusat.
Il était le fils de Claire de Vergennes et d'Alex et d'Augustin de Rémusat. Claire de Vergennes était la fille d'Adélaïde de Vergennes, et qui était cousine du ministre des Affaires étrangères bien connu, Louis XVI. Et elle-même, cette grand-mère de Rémusat, était une bastard, grande famille toulousaine, de magistrats. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est retrouvé quelque temps plus tard propriétaire du château de Bastard. Parce que sa grand-mère était très malheureuse que ce château n'était plus entre les mains de Bastard, car son frère, qui était un peu débauché, un peu de magistrat qui faisait mal son métier. Il y en a quelques-uns. Ce magistrat, donc, avait été obligé de... avait fait beaucoup de dettes, et ce château n'était plus à lui. Donc c'est le père de Charles de Rémusat, qui avait gagné un peu d'argent comme chambellan de Napoléon, qui a racheté le château en 1809. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés avec sa femme. Ça, c'est le côté de sa mère, avec une mère tout à fait remarquable, hein, une femme très érudite, très charmante, et il s'adorait avec sa mère. C'était un lien très fort entre la mère et le fils, c'est-à-dire elle l'a éduqué, même du point de vue du latin, de la philosophie, des mathématiques, jusqu'à 11 ans. Et puis son père, alors, Rémusat, est une famille marseillaise, de commerçants, mais son père avait une charge de magistrat à la cour d'Aix-en-Provence, mais cette charge a été supprimée par la Révolution. Il est arrivé à Paris sans trop quoi faire, et il s'est retrouvé aider Madame de Vergennes, dont le mari avait été guillotiné. Et c'est comme ça que la fille de Madame de Vergennes, Claire de Vergennes, s'était pris de ce monsieur qui avait quand même oui, une bonne quinzaine d'années de plus qu'elle, n'est-ce pas ? Et qui s'occupait des affaires de sa maman.
Il voit donc le jour en 1797, et dans ces dernières années de la tourmente révolutionnaire, politiquement, de quel côté se situait sa famille ?
Vous savez, hein, c'était le problème de ces aristocrates qui en avaient bavé, si j'ose dire, puisque Cette pauvre madame de Vergennes avait vu son mari guillotiné. Elle s'en est tirée, elle, comme ça, par chance. C'est comme ça qu'elle est devenue d'ailleurs amie de Joséphine de Beauharnais, qui a perdu aussi son mari guillotiné au papa au même moment, à la fin de la... Et donc, ces gens-là ne savaient pas trop, très bien où se situer du point de vue dans la société, et dont on avait supprimé à peu près toute l'aristocratie. Mais enfin, elle existait encore. Les uns sont rentrés de l'exil, se sont mis au service de Napoléon. La plupart des aristocrates brillants sont mis au service de l'empereur. Voilà. Sauf Lafayette, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, monsieur de Rémusat et sa femme, donc née Vergennes, se sont mis au service de l'empereur, puisque Claire de Rémusat est devenue dame d'honneur de Joséphine de Beauharnais, et que Augustin de Rémusat est devenu chambellan de Bonaparte, puis de Napoléon. Voilà. Et donc, il était chargé en particulier de le suivre partout où il allait pour installer le théâtre. On emmenait la moitié de la troupe de la Comédie française, où que ce soit, n'est-ce pas, en Varsovie, théâtre aux armées, comme vous dites. Et il fallait donc, c'était pas très facile, il fallait se débrouiller avec ça, trouver une salle, monter les tréteaux, faire que toutes ces dames et tous ces messieurs s'entendent, ne se bataillent pas, enfin c'était un lourd travail de chambellan.
Et est-ce cela au sein de cette famille qu'il acquiert le goût et le souci de la chose publique ?
Je pense que ça a compté, mais enfin, il était très jeune, donc il avait 3 ans en 1800. C'est un petit peu plus tard que Claire de Rémusat est devenue dame d'honneur de Joséphine, mais et lui chambellan, donc il était obligé de rester en toutes circonstances dans de bonnes... dans une considération satisfaisante à l'égard de Joséphine, qui était une bonne fille d'ailleurs, assez facile, et à laquelle d'ailleurs Claire de Rémusat est restée fidèle, lorsqu'il a fallu choisir. Et le chambellan, bien entendu, il ne devait pas avoir d'opinion politique, sinon celle de son maître. Mais il est tout à fait certain, et Claire de Rémusat le dit dans ses mémoires, qu'ils en avaient assez de Napoléon, voilà, et qu'ils trouvaient que ça suffisait comme ça. Donc lorsque Chateaubriand a publié son libelle, son pamphlet contre les Bonapartes, des Bonaparte, juste après Waterloo, ce qui n'était pas très gentil quand même, eh bien, elle partageait les opinions de Chateaubriand. Et il n'était pas là, tout à fait en accord avec son fils, qui trouvait justement, il avait à ce moment-là 18 ans, que ce n'était pas bien de descendre l'ancien grand patron de la France, n'est-ce pas ? Juste lorsque justement il était tombé, c'était un peu écrasé à terre.
Donc là, nous arrivons à la fin de l'Empire. Charles de Rémusat est un jeune homme, il a 16-17 ans, et il fréquente les salons. Est-ce que c'est un dandy ?
Je ne crois pas qu'on peut dire que ce soit un dandy. Je crois qu'il aimait bien s'habiller, être assez chic. Il était bien reçu dans les salons, parce qu'il était assez charmant. Parce qu'il, en plus, il chantait. Il était un grand créateur de chansons, versifié. C'était pas de la grande littérature, c'était pas de la grande poésie, c'était plutôt assez facile. C'était plutôt des chansons de chansonnier, comme on dirait maintenant, n'est-ce pas ? Mais il était très bien accueilli et il aimait bien les salons, surtout lorsqu'il y avait des gens intelligents. Et il fréquentait d'ailleurs des salons de qualité, il faut le reconnaître, pas n'importe quoi. Donc, mais dandy non, c'est-à-dire qu'il n'était pas particulièrement à la recherche d'une tenue, il n'était pas orgueilleux, il y a un côté de simplicité dans ce personnage qui quand même était bien avec tous les grands du moment. Il était ami, proche de tous les hommes politiques importants. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a dû le chercher pour qu'il soit ministre de l'Intérieur. Et plus tard, grand ami de Thiers en particulier, donc très bien placé, mais ne s'en vantant pas tellement et n'utilisant pas tellement ses amitiés, sauf pour les discussions qui le passionnaient.
Justement, vous venez d'aborder un point très intéressant. Vous nous dites qu'il a été toute sa vie durant ami des grands, donc il a traversé pratiquement tout le 19e siècle en se tenant plus ou moins dans les sphères du pouvoir. Est-ce que c'est le fait d'un opportunisme, d'un homme habile ou tempéré ou...
Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit un opportuniste. Il était, vous avez raison de dire qu'il était passionné de politique, mais pas ambitieux. D'ailleurs, il aurait pu arriver à des postes plus importants. Il aurait pu, peut-être avec Napoléon III, par exemple, qui n'attendait que ça, être son ministre. Il n'a pas voulu parce qu'il estimait, il était contre la privation de liberté. C'était un libéral, au sens politique du terme, n'est-ce pas ? Il était comme Lafayette. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la liberté de pensée, d'expression, etc. À partir du moment où le chef supprime certains journaux, censure, etc., c'est inadmissible. Voilà le jugement de Rémusat. Donc, c'est pas un vrai ambitieux, c'est pas un vrai opportuniste. Mais politique, oui. Il aimait bien participer à la gestion, faire de la politique, réfléchir à la politique. Et en plus, avec son sens démocratique, authentique, il n'a pas voulu entrer en politique sans avoir été élu. Donc, c'est comme ça qu'il a cherché. Alors là, il a une certaine ambition de chercher à trouver une place de député. Il l'a trouvé grâce à des amis toulousains qui étaient venus à Paris voir Guizot. Donc il a été élu député, il est resté député jusqu'à justement le Second Empire, et il a été conseiller général très longtemps de la Haute-Garonne. Puisqu'il était, c'est grâce à ça, grâce à ses amis toulousains et à son château dans la région toulousaine, qu'il est devenu un peu toulousain. Bon, au début il n'était pas très enchanté, non, il n'était pas enraciné, bien que du côté de sa femme, on était vieille famille toulousaine. Mais il est devenu, il a fini par aimer ce pays et ce château.
Né à la fin de la tourmente révolutionnaire en 1797, nous l'avons dit, et mort peu de temps après l'avènement de la Troisième République en 1875, Charles de Rémusat, un homme soucieux de la chose publique, est un témoin scrupuleux des bouleversements de la société française de ce bouillonnant XIXe siècle. Et c'est par le biais du journalisme que cet orléaniste libéral et éclairé, député de la Haute-Garonne, ministre des Affaires étrangères de Thiers, entre en politique.
Vous avez raison, ses débuts en politique, c'est par le journal, un hebdomadaire qui s'appelait Le Globe. Ce journal qui était assez lu, où il écrivait un peu sur tous les sujets, mais politique en particulier, mais éventuellement philosophique aussi. Donc. Il avait une grande culture. Et Le Globe a joué un rôle assez important au moment de la révolution de 1830, puisque les journalistes se sont rebellés contre ce ministère Polignac. Charles X, n'ayant pas bien compris qu'on en avait assez de lui, un petit peu comme Moubarak n'a pas compris non plus, n'est-ce pas, et d'autres. Et donc, il y a eu une rébellion qui a commencé par les journalistes, mais ce qui avait quand même une certaine liberté de la presse, il faut le reconnaître, du temps de Charles X. Et donc, ils se sont réunis, ils ont fait, à la suite de cette décision de Charles X, ils ont fait un texte, n'est-ce pas, ensemble, et c'est Thiers et Rémusat qui l'ont écrit. Et ça a commencé comme ça. Le crime est consommé, les ministres ont conseillé au roi des ordonnances de tyrannie, justement les ordonnances qui réduisaient la liberté de la presse. Nous ne céderons qu'à la violence. Et ça continue. Et c'est comme ça que la révolution a commencé. Puis, elle a commencé aussi là, du côté des ouvriers, et un peu des typographes. Les imprimeurs, les ouvriers des imprimeries se sont mis en grève et sont redescendus dans le centre de Paris où ça a commencé. On a fait sauter les pavés, on a abattu les arbres. Et enfin, ça a été la révolution, les trois jours. La révolution de juillet, trois glorieuses.
Donc il prend une part active à cette révolution de 1830. Et comme vous l'avez dit précédemment, il ne veut arriver vraiment au pouvoir que par le suffrage du peuple. Alors, ce n'est pas le suffrage universel, bien sûr, mais il devient donc député de la Haute-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment, de quelle manière ?
Bien, vous savez, en 1830, c'est comme chaque révolution, il faut changer le personnel politique. Et c'était vrai à Toulouse comme ailleurs, aussi bien du côté du maire que du côté du préfet, etc. Et donc, il y avait de jeunes loups qui voulaient prendre le pouvoir. Profiter de cette agitation, de cette révolution pour le pouvoir. Et ils ont décidé d'aller à Paris pour annoncer les couleurs en disant qu'ils étaient prêts à le prendre et à le faire. Et je ne sais comment, oui, à cause probablement du château de Rémusat, et ils sont allés voir Rémusat en lui disant « Il paraît que vous êtes bien avec M. Guizot, vous pourriez peut-être lui dire que nous sommes disposés, nous, à prendre la place et le pouvoir ». Aussi bien les municipalités que du côté de la préfecture, le préfet, voilà. Donc ils ont pu aller voir Guizot, je pense que Guizot, oui, effectivement, a dit pourquoi pas. Vous savez, dans ces périodes, surtout à l'époque, Guizot avait beaucoup de mal. Le gouvernement avait beaucoup de mal pour trouver justement des gens à son service un peu partout en France. C'était pas comme maintenant, tout est contrôlé. Enseignements généraux et puis les communications sont tellement faciles. Donc c'était pas le cas. Donc Guizot a effectivement confié le pouvoir. Donc ils ont été très reconnaissants. Lorsque Rémusat a cherché un siège de député où vous pouvez se faire élire, eh bien il en a parlé. Et il a dit mais on va vous prendre à Toulouse, j'ai pas de problème, on va faire en sorte que vous soyez reçu.
Et à Toulouse, donc, enfin, dans la région toulousaine, est-ce qu'il a eu une action réelle? Est-ce qu'il passe plus de temps à Paris qu'à Toulouse?
Je crois qu'il a eu une action à plusieurs points de vue. Et il a fait ça, je crois, ce travail avec sérieux et avec une bonne gestion. Et on en a été reconnaissant. Et puis ensuite, lorsqu'il s'est habitué à Lafitte, à son château de Lafitte, avec l'aide de sa femme, il a cherché à connaître les gens. Et en particulier, justement, il le dit d'ailleurs, ça fait partie de cette espèce de simplicité, ça fait partie de sa philosophie de personnelle, de sa façon d'être. Il n'est pas allé faire la recherche de tous les aristocrates du coin, n'est-ce pas, et rester dans ce milieu. Et au contraire, il a cherché à connaître les gens de la base. D'abord les paysans, ça c'était obligatoire, parce que le château était entouré de 1000 hectares qui leur appartenaient. Donc je crois qu'ils ont été de bons patrons et qu'ils s'entendaient bien et qu'ils étaient contents d'aller là chez les uns et les autres, de boire un truc ou un coup. Et là, il a joué un rôle, je pense, important dans la région. D'ailleurs, son fils, son petit-fils, son petit-gendre ont continué à être des personnalités dans la région importantes. Et justement, le mari de son arrière-petite-fille, Gilberte, qui a publié les mémoires, Gilberte de Rémusat, qui était orientaliste et qui est morte pendant la guerre de 40. Le mari de Gilbert, là, M. de Coral, était le maire de... Encore oui, que ça a suivi, puisque lui, il était conseiller général en 1825-30, et M. de Coral, pendant la guerre, était encore maire de Lafitte. Donc je pense que la famille de Rémusat s'est bien implantée.
Et en politique, il croise et rencontre des personnalités déterminantes. Celle de Thiers, par exemple, avec lequel il noue des liens d'amitié, que les vicissitudes du temps et des bouleversements politiques ne sauront altérer.
Il y a une amitié certaine. Bon, une différence importante, il est sûr que ce n'était pas le même genre d'homme. Voilà. Thiers est un peu rustique d'une certaine façon, et très ambitieux. C'était un homme d'État, c'était un homme politique, c'était un tribun, quoi. Il y a eu des séances d'ailleurs remarquables, en particulier avant la guerre de 70. Là. Et lui, non. Rémusat, je ne crois pas qu'il avait une grande éloquence politique. Je ne crois pas. Il était réservé. Il avait un petit côté aristocratique, mais de qualité, et une certaine réserve. Tandis que Thiers n'avait pas beaucoup de réserve. Bon, il ne se gênait pas non plus dans sa vie privée. C'était un petit peu le désordre. Il paraît qu'il couchait non seulement avec sa femme, mais avec sa belle-mère et avec la sœur de sa femme, etc. Bon. Mais Thiers était un homme politique, était un animal politique. Ces types qui arrivent toujours et qui interviennent quelquefois à bon escient, qui rendent service. Il a rendu service avec un courage politique aussi. Et ça, une ambition. Et tout ça, il ne l'avait pas. Et Rémusat, finalement, ils avaient une admiration réciproque. Respect, réciproque, une complémentarité. Il ne dit pas beaucoup de mal de Thiers dans ses mémoires. Il en dit plutôt du bien. Il l'a reçu il y a à Lafitte, donc devant notre petit parc, il y a le pain maritime de Thiers. Sur la route, il y a deux pains maritimes qui appartenaient en fait à la propriété. Puis comme on a tracé une route, ils sont maintenant au bord de la route. Et c'est là, paraît-il, qu'ils s'asseyaient ensemble sous l'arbre pour discuter. Et Thiers est passé avec toute la famille, sa femme, sa belle-sœur, sa belle-mère, tout ça, au château à plusieurs reprises. Donc c'est sûr que ça a tenu, cet amitié. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'en fin de compte, après 70, il a accepté, par amitié, le poste de ministre des Affaires étrangères, qui n'était pas du tout rigolo après la guerre et avec l'occupation prussienne.
Toute sa vie, Charles de Rémusat aima s'entourer de jolies femmes. Quelques belles figures éclairent et illuminent même sa vie. Madame de Baronte, Cécile de Teuteau, pure et romantique passion de ses 18 ans qui, pendant plus de 60 ans, demeura son amie la plus fidèle.
Oui, ça, il était incontestablement, il avait besoin des femmes, des jolies femmes, des femmes intelligentes. Et il y a eu un premier amour extraordinaire. C'est vraiment, en plus, un personnage romantique. Alors que Pierre ne l'est pas. Il est plongé dans la période romantique et il est romantique et il n'a qu'à suivre ses amours pour le voir, pour le constater. C'est incroyable. Bon, d'abord, ce premier amour pour Césarine Doudetot, qui est extraordinaire aussi parce que elle était mariée avec Monsieur de Barante. Et ils étaient très proches l'un de l'autre, n'est-ce pas? Il allait la voir une fois tous les deux jours, presque, n'est-ce pas? Il notait toutes ses visites à cette Césarine, qui devait être très belle et très intelligente. Et il note, par exemple, qu'en 1816, il est allé la voir 110 fois. Il était tout le temps à la maison. Et l'autre, Barante, c'était Monsieur de Barante, donc, Barante, qui a été préfet, puis qui a été ambassadeur, il n'était pas toujours là, moins souvent là que son ami. Mais apparemment, César est très fidèle, mais ils étaient vraiment une grande amitié, proche, du cœur et de l'esprit. Voilà. Mais ça n'allait pas aller plus loin en principe. Voilà. Il était respectueux de César, qui voulait rester fidèle, qui était une pieuse, une bonne catholique, etc. Après ça, dans un invité par le banquier Lafitte, qui était également un ami de tous ces gens-là, de tous ces hommes politiques, et qui ont dominé la direction des affaires françaises sous Louis-Philippe, il a découvert les filles d'Augustin Perrier, qui était le frère de Casimir Perrier, qui est devenu le premier ministre de Louis-Philippe. Et il était amoureux de toutes les filles qui étaient là, il y en avait trois. Et donc, très vite, il s'est aperçu qu'il voulait épouser l'aînée, Octavie. Il est allé à Grenoble pour ça, dans la famille Perrier. Il a dit, je voudrais épouser Octavie. Mais arrêtez-vous, elle est morte, elle vient de mourir. Elles étaient toutes les trois tuberculeuses. À l'époque, la tuberculose, c'était dramatique. Et donc, il est resté dans la maison quelques jours. Et puis, il a découvert la troisième, je crois, que c'était Fanny, qui était également charmante et belle aussi, je pense. Et il est devenu amoureux, fou de Fanny, jusqu'à ce qu'il l'épouse peu de temps après. Malheureusement, elle était tuberculeuse. Et ça ne s'est pas arrangé, puisqu'au bout de quelques mois, elle est morte.
Apôtre du libéralisme politique, la pensée de cet homme qui a traversé le XIXe siècle et ses nombreux régimes, et qui a néanmoins su se maintenir dans les sphères du pouvoir, a-t-elle évolué au fil des années?
Je ne pense pas, justement. Je pense qu'il est resté... Il s'est fait des opinions très tôt, parce qu'il était très intelligent. C'était un gosse très malin, très, très astucieux. Très tôt, il était déjà un journaliste connu, alors qu'il avait 19 ans, 20 ans, n'est-ce pas, et qu'il écrivait sur des sujets difficiles. Donc il a eu très vite une connaissance. Il a fait des études universitaires un peu frustes, un peu diverses. Il est allé à la fois à la faculté de droit, à la faculté de lettres. Enfin, il a papillonné un peu pendant 2-3 ans. Et il avait déjà une culture forte parce qu'il était imprégné par sa mère. Puis ensuite, il lisait beaucoup. Et il s'est fait des idées politiques très tôt. C'était le libéralisme, d'ailleurs. Les gens dont il était entouré, les doctrinaires, ces fameux doctrinaires avec Roy Collard, avec Guizot, De Broglie, etc., étaient des gens qui avaient cette position politique très précise, c'est-à-dire l'idéal pour c'est une monarchie constitutionnelle, et la base des relations entre le pouvoir et le peuple, c'est la liberté. Le libéralisme à l'époque, c'était le libéralisme individuel et politique, c'était pas le libéralisme commercial, c'était pas ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un libéral actuellement en économie. Ce n'était pas de l'économie, c'est de la politique. Et c'était les mêmes idées que celles de Lafayette. C'était la déclaration des droits de l'homme. Et Tocqueville, déclaration des droits de l'homme, c'est les Américains aussi. C'est liberté d'expression, de conscience, de religion, de propriété aussi, tout ça. Donc c'était la base. Et c'est la base qui n'était pas tout à fait acceptée par les dirigeants. Lorsque Lafayette, lorsqu'il a rencontré Napoléon, je crois que c'était... Napoléon a réussi à, a récupéré toute l'aristocratie là, autour de lui, sauf Lafayette. Et il a dit, il voulait lui donner l'ambassade à Washington, États-Unis, ou bien la présidence du Sénat, etc. Et Lafayette a dit non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, vous savez, votre régime ne me plaît pas. Et pourquoi ? Mais à cause de la liberté. Oh, Napoléon lui a répondu, mais vous savez, les boutiquiers, ils s'en foutent de la liberté. Alors, ça, c'était la cassure. Et Rémusat, par lui-même, puis, bon, il était content que Lafayette, son grand-père, par alliance, ait les mêmes opinions que lui. Rémusat avait ses idées et tous ses amis autour avaient ces idées-là. Je crois que c'était, au fond, la base de la démocratie, quoi. Et il n'a pas bougé de ça. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté de travailler avec Napoléon, ni avec d'ailleurs Napoléon, le prince président, ni avec Napoléon, le neveu, l'empereur, n'est-ce pas ? Tout simplement à cause de ça. Et je pense qu'il n'a jamais changé ses opinions.
Fidèle à ses idées, chercheur de vérité au-delà des faits, Charles de Rémusat, nous dit Jacques-Arlet, et je le cite, a toute sa vie cherché à comprendre la cause des révolutions, la signification du mal et le visage de l'éternel.